J'ai un message pour vous ce matin. Puis on sait que c'est le début de l'année. Et qui dit début d'année dit résolution. Vrai ou pas? Est-ce qu'il n'y a que moi qui a déjà pris des résolutions ou est-ce qu'on est plusieurs à en avoir pris? Puis mon autre question, c'est est-ce qu'il n'y a que moi qui a déjà pas tenu ces résolutions ou est-ce qu'on est plusieurs à déjà avoir chuté? Il y a une réalité, c'est que le début d'année démarre toujours avec des résolutions. Et je sais que personne n'a voulu lever la main, mais moi, j'ai honte de rien. J'ai pris des résolutions le 31 décembre, le 1er janvier, et déjà, on est aujourd'hui le 7 janvier, je peux vous dire, je ne les ai pas tenues. Par exemple, j'avais pris la résolution de dire, j'avais perdu tellement de poids avant de repartir en France, je suis reparti en France, j'ai passé du temps à table, j'ai repris 2,5 kg, j'ai dit, oh, moi, quand je rentre, fini, plus de bonbons, plus de machin, etc. Hier, on était en famille autour d'un chocolat chaud, des chamallows, des biscuits. Car résolution non tenue. Ça, c'est clair. Mais la réalité, c'est que vous ne le dites pas, mais je sais que vous avez déjà pris des résolutions, puis je sais que beaucoup sont là, puis ils disent « Ah, ça, c'est mon histoire, Seb. Tu m'as démasqué. » J'aimerais poser la question ce matin. Sais-tu pourquoi tu ne tiendras pas tes résolutions cette année encore? Ça, c'est un bon titre de message, ça aussi. Pourquoi tu ne tiendras pas tes résolutions cette année encore? À cause des difficultés qui vont se présenter. À cause des opportunités qui vont se révéler, à cause des oppositions qui vont se lever, à cause de la fatigue qui va s'installer. Mais surtout, on manque nos résolutions souvent parce qu'on n'a pas conscience de la réalité, du défi, de ce que une résolution, c'est pas juste des paroles jetées en l'air, c'est des mots qui doivent être accompagnés d'actions. Et souvent, on n'a pas conscience de la réalité de nos résolutions. On ne prend pas conscience de dans quoi ça va nous embarquer, dans quoi ça va nous amener. Puis, la réalité, c'est que bien souvent, dans nos résolutions chrétiennes, puis je ne parle pas de cette fois-ci de plus manger de chocolat ou de boire moins de bière ou de je ne sais quoi, là, mais je parle de nos résolutions chrétiennes. La réalité, finalement, c'est quoi? Mais c'est que le monde vit sur une confrontation de résolutions. Le monde est régi sur une confrontation de résolutions. La résolution du diable de détruire les chrétiens, l'amour et la foi, et la résolution de Dieu d'aimer l'humanité déchue pour faire naître la foi afin qu'elle retrouve son identité et qu'elle soit de nouveau acceptée dans la présence de Dieu. On regarde ce matin que si être résolu ne fait pas de nous des gens dépourvus de la pression de l'ennemi, parce que l'ennemi va presser tes résolutions. Mais être résolu fait de nous des candidats de la grâce, fait de nous des candidats de l'onction qui nous protège des attaques soudaines, qui nous délivre des prisons qui nous retiennent, qui nous délivre et qui nous libère des capacités en nous de vouloir et de faire. J'irai cette année au bout de mes résolutions. La bonne nouvelle, c'est que si la résolution ne nous rend pas dépourvus de la pression, la pression que l'ennemi met sur nos vies ne nous rend pas dépourvus de la protection, de la grâce, de la bénédiction, de la provision du ciel pour nous aider à accomplir nos résolutions. Quelqu'un doit entendre ce matin que si tu fais les bons choix, si tu prends le bon mode de vie, tu peux arriver au terme de tes bonnes résolutions. Et j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est un recueil puissant de résolutions. Des résolutions qui ont été prises par toutes sortes de personnes. Mais toutes ces personnes sont différentes, mais il y a un désir, une pensée dans leur cœur, une passion commune qui est « on va rester attaché à Dieu ». Tout au long de la parole de Dieu, nous voyons des gens qui ont pris des résolutions. C'est des prophètes, c'est des rois, c'est des disciples, c'est des femmes de foi. Mais tous ont transcendé leur situation, ont surmonté les épreuves, ont combattu l'adversité avec un seul engagement profond dans leur cœur et envers Dieu. Je resterai attaché à lui. Est-ce que ce matin, nous voulons décider qu'en 2024, nous allons rester attachés à Dieu? Tellement de résolutions dans la parole de Dieu. La résolution de Josué de servir Dieu coûte que coûte. La résolution de Ruth envers Naomi de ne pas se détourner. La résolution de David face à Goliath d'avoir confiance en l'Éternel. Résolution de Salomon de marcher, de vivre dans la sagesse et la droiture. La résolution de Job de ne pas renier Dieu. La résolution de Daniel de ne pas se souiller. Tellement de résolutions puissantes que nous pourrions d'ores et déjà mettre dans nos vies. Mais aussi la résolution de Marie d'accepter le plan de Dieu. La résolution de Pierre et des apôtres d'obéir, quoi qu'il en coûte. Résolution de l'apôtre Jean d'aimer Christ parce qu'il nous a aimés le premier. La résolution de Jésus d'accomplir le plan de rédemption comme nous venons de prendre la communion, cette résolution de dire « j'irai jusqu'au bout, que non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Je suis résolu à accomplir ta volonté, même dans l'épreuve, même dans la difficulté. » Mais aussi la résolution de Paul de faire face à l'épreuve et d'endurer la persécution pour révéler la puissance de sa conversion. Paul n'était pas le grand gagnant du moment. On s'entend que Paul, c'était un tueur de chrétiens. Mais lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il prend une nouvelle résolution. Et il dit, cette résolution-là, je la tiendrai, même si je dois endurer la persécution. Je vais, à travers cette résolution-là, je vais révéler la puissance de ma conversion. Et c'est cet apôtre Paul-là qui dira en 2 Corinthiens 12, il dira que c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Pourquoi je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Et ma résolution est appuyée sur quoi ? Elle n'est pas appuyée sur moi, parce que sinon, elle serait abandonnée depuis longtemps. Elle est appuyée sur lui. L'apôtre Paul est l'un des hommes, pour ne pas dire l'homme le plus impactant de la Bible, après Jésus, à cause de ses résolutions. L'apôtre Paul était littéralement un homme de résolution. Lui, l'ancien meurtrier, résolu à faire mourir le christianisme, il a été arrêté par Jésus lui-même sur le chemin de Damas. Il a expérimenté la puissance de la grâce. Et c'est ce même homme qui, après Jésus, prend une nouvelle résolution et impacte avec puissance tout le Nouveau Testament. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous traversons de nombreux écrits de l'apôtre Paul. Parce que c'était un homme qui avait rencontré Jésus, qui avait bâti une nouvelle résolution, qui a dit « personne, rien n'aura raison de cette résolution ». De la rencontre de Paul avec Christ qu'il persécutait, il va être transformé en tout point. Peux-tu réaliser ça ? Celui dont la résolution c'était de tuer les chrétiens, Saul, le meurtrier, va vivre une transformation qui va littéralement transformer sa résolution. Lui qui était résolu à faire mourir tous les chrétiens, se retrouve finalement résolu à apporter la vie. Il passe de persécuteur de Christ à persécuté pour Christ. De témoin du meurtre à bénéficiaire de la rédemption, de porteur de l'angoisse à dispensateur de la paix, d'ouvrier de la mort à représentant de la vie. Voici le renouvellement de la résolution de l'apôtre Paul. Et Paul a vécu cette nouvelle résolution parce qu'il avait vécu une réelle rencontre et une pleine transformation. Nous avons besoin et le monde a besoin de vivre la transformation qui change les résolutions en convictions. Quelquefois, nous prenons des résolutions, mais la résolution ne suffit pas. Nous avons besoin que nos résolutions deviennent des convictions. Résolution, et nous avons besoin d'une révélation. Toute résolution, décision, n'est pas forcément bonne, et elle finira par céder si elle n'est pas transformée en une conviction, une certitude sur le bien fondé de ce que je fais. Peux-tu réaliser que l'apôtre Paul, qui était avant Saul, le meurtrier, avait une résolution dans son cœur. « Je vais tuer les chrétiens. » Et la parole de Dieu nous dit, quand elle parle de Paul, nous dit qu'il respirait le meurtre. Littéralement, c'était sa vie. Il vivait pour ça. Sa résolution, c'était « Je vais les tuer un à un. Je vais tous les éradiquer et on n'entendra plus parler du christianisme. » Mais la résolution, finalement, de Saul, de tuer les chrétiens, elle a cédé lorsque Jésus est venu le rencontrer sur le chemin de Damas. Pourquoi ? Parce que c'était une résolution, c'était une décision qu'il avait prise. Mais lorsque Jésus vient et confronte sa résolution, il transforme sa pensée, il scelle en lui une nouvelle résolution, puis cette résolution-là devient une conviction. Il a la certitude, l'apôtre Paul. C'est pourquoi il dit, dans les textes, il dit « Voici tout ce que j'ai vécu, mais malgré tout ce que j'ai vécu, rien ne m'aurait séparé de cette résolution que j'avais prise. » Quelqu'un doit entendre que quand la résolution devient une conviction, elle surpasse, elle dépasse, elle écrase l'opposition. Il n'y a pas d'opposition qui peut tenir lorsque ta résolution est devenue une conviction. Et nous avons besoin de réaliser quelles sont dans nos résolutions les points où Jésus veut que l'on transforme cela en conviction. De Corinthiens 11, Les versets 23-28 nous disent ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle et il dit, « Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. » Il parle de lui. Il dit, « 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'étais lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. 1 nuit et 1 jour j'ai passé dans l'abîme. » Il dit, « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Et lorsque nous lisons l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il énumère les épreuves, les dangers auxquels il a été confronté au cours de sa vie, à cause du ministère, à cause de la résolution qu'il avait prise. Mais malgré tout ce qu'il vit, il demeure ferme. Il met en lumière les défis constants auxquels il a dû faire face à cause de son engagement à propager l'Évangile. Quand tu connais la valeur de ton trésor, tu feras tout pour le garder coûte que coûte. C'est une réalité. Lorsque tu sais la valeur de ce que tu as reçu, tu feras tout pour le garder coûte que coûte. Et l'apôtre Paul connaissait la valeur de ce que Jésus lui avait donné, de cette résolution qui était devenue littéralement une conviction. Mais malgré tout ça, à travers le texte que l'apôtre Paul écrit, nous pouvons réaliser une chose, c'est qu'une résolution dans nos vies n'empêchera pas la pression de l'ennemi. Le but de l'ennemi, lorsque tu prends des résolutions pour Christ, c'est de t'arrêter, c'est de t'empêcher. Parce que lorsque tu prends une résolution pour Christ, tu deviens un ennemi, tu deviens un danger potentiel. Et l'apôtre Paul, quand il tuait les chrétiens, il avait la faveur de l'ennemi. L'ennemi ne l'embêtait pas, l'ennemi ne l'opposait pas. Mais lorsqu'il a changé sa résolution, lorsque c'est devenu une conviction, lorsqu'il a commencé à aller à contre-courant, il est devenu un ennemi du diable. Et il a commencé à subir des pressions et des oppositions. Tu dois savoir que si Dieu est déterminé à te bénir, le diable est déterminé à te détruire. C'est fou, mais c'est une réalité. Dieu est déterminé à te bénir, mais le diable est déterminé à te détruire. C'est la confrontation de résolution qui régit le monde, le bien contre le mal. Et se résoudre, prendre une résolution, c'est déclarer la guerre à quelque chose ou à quelqu'un. Certains vont déclarer la guerre à leur kilo en trop, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à la force et à la puissance d'un simple gâteau au chocolat. C'était mon cas. J'ai chuté hier. Certains vont être résolus. Ils vont déclarer la guerre, à leurs addictions, ne voyant pas comment ils sont attachés et prisonniers de celles-ci et ne voyant pas la force du combat qui va être amené. D'autres vont se résoudre à ne plus procrastiner. D'autres vont se résoudre à prier plus, à lire plus la parole, mais ne sont pas conscients que ce n'est pas une décision qui est simple à prendre, c'est un combat à mener. La résolution ne sonne pas la fin du combat. Ce n'est pas parce que tu prends une résolution que tout est acquis. La résolution, elle ne sonne pas la fin du combat, elle sonne son lancement. Prendre une résolution, littéralement, c'est sonner la cloche qui appelle l'adversité et l'affrontement. Et ma question ce matin, combien de rounds vas-tu tenir dans le combat de tes résolutions? On n'est pas dépourvu de combat par une simple résolution. La lutte contre le bien et le mal est toujours présente. Elle s'accentue fortement avec les années. Les inégalités, elles sont croissantes. Les inégalités sociales sont présentes, s'accentuent. La décadence du monde s'accélère, rendant les résolutions plus dures à tenir dans le temps et les engagements de moins en moins présents. Il y a des gens qui, la seule résolution qu'ils sont capables de prendre, c'est « je ne prendrai pas de résolution ». Je me résous que pour ne pas être déçu cette année, je ne prendrai aucune résolution. Je n'aurai rien gagné, mais je n'aurai rien perdu. Il y a des domaines dans nos vies, je te le dis pour vrai, il y a des domaines dans nos vies qui auraient bien besoin d'entendre nos bouches déclarer « Je suis résolu, je prends cette résolution ». Il y a des domaines de nos vies qui auraient besoin de voir nos cœurs se décider, nos pensées être transformées afin de faire exploser la pression de l'ennemi qui confronte et qui s'oppose à nos résolutions. La pression désigne littéralement la force exercée sur une surface donnée. J'ai cherché c'est quoi la définition du mot « pression ». Et pression, c'est la force exercée sur une surface donnée. Et la pression augmente lorsque la force exercée sur une surface augmente. Et lorsque la surface sur laquelle la force agit diminue. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que plus ta foi est grande, plus la pression peut appuyer, mais ta foi va tenir. Plus ta foi devient petite, plus la pression va la faire craquer. L'unité de mesure, ça c'est intéressant, l'unité de la mesure de la pression dans le système international, c'est le pascal. Tu dois entendre ça ce matin, c'est tellement bon. Quand je l'ai écrit, j'ai sauté de joie tout seul. L'unité de la pression, c'est le pascal. Mais lorsque la pression écrase ta vie, lorsque la pression écrase tes résolutions, nous avons reçu en Jésus l'autorité et la capacité pour résister. L'unité de mesure de notre pression, ce n'est pas le pascal, c'est l'agneau pascal. C'est Jésus-Christ, le sauveur du monde, celui dont l'autorité ne peut être opposée et duquel la puissance est inégalée. Nous avons en nous une pression qui est capable de faire sauter toutes les pressions de l'adversité. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas gérés par le pascal, mais par l'agneau pascal, le Christ rédempteur, celui qui est mort à la croix pour nous donner force, autorité et puissance. Ça, c'est la réalité. Il est la puissance qui repousse l'adversité et qui peut te rendre hermétique à la pression. La puissance de la révélation. Lorsque nous comprenons la puissance de la révélation que Jésus nous donne, nous recevons la capacité de briser le pouvoir de la pression. Toujours l'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens 4, les versets 8 et 9, il dira « Nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas détruits. Nous ne sommes pas rendus à l'extrémité. » Nous sommes dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Et j'aime particulièrement cette révélation. Parce que l'apôtre Paul dit littéralement que voici tout ce que nous vivons, mais dans tout ce que nous vivons, nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous résistons, nous demeurons fermes parce que nous avons en nous une force et une autorité qui empêche la pression de nous écraser. La révélation de l'apôtre Paul dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais pas réduits à l'extrémité. » Et Paul reconnaît que lui et ses compagnons font face à des pressions de toutes sortes, des pressions qui proviennent de toutes directions. Et ils peuvent être confrontés à des difficultés, des oppositions, à des choses qui sont particulièrement éprouvantes. Mais malgré ces pressions, Paul affirme, il dit « On n'est pas réduit à l'extrémité. Bien que confrontés à des situations difficiles, nous ne sommes pas anéantis, nous ne sommes pas détruits, nous ne sommes pas perdus. » La pression de l'ennemi ne peut détruire la vie de celui qui bâtit sur Jésus-Christ. Nous sommes dans la détresse, l'apôtre Paul le dit, mais on n'est pas dans le désespoir. Oui, nous passons par des moments de trouble. Oui, nous passons par des moments difficiles. Oui, nous passons par la détresse, mais nous ne sommes pas désespérés. Notre espoir est en lui. Notre espoir n'est pas à ce que l'on voit. Notre espoir n'est pas à ce qui vient contre nos décisions, contre nos résolutions, contre nos convictions, mais notre espoir est en lui. C'est pourquoi nous avons l'assurance que nous ne sommes pas abandonnés. Paul souligne une distinction importante. C'est que tu peux traverser des périodes de détresse. Il peut y avoir des moments difficiles et stressants. Mais ça ne peut pas te conduire dans le désespoir si tu bâtis tes résolutions sur Jésus-Christ. Ils ne perdent pas espoir parce que leur confiance repose en Dieu. Leur confiance repose en Jésus-Christ, lequel est plus grand que toutes les circonstances. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et bien qu'il puisse être abattu, bien qu'il puisse être découragé, bien qu'il puisse être confronté à des situations difficiles qui pourraient les affaiblir, Paul affirme, nous ne sommes pas perdus. Quelle que soit la situation dans laquelle nous passons, nous ne sommes pas perdus. Nous savons exactement où nous sommes, mais nous savons surtout avec qui nous y sommes. Nous avons avec nous la boussole de nos vies, Jésus-Christ. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Tout ce qui vient pour nous entourer, pour nous écraser, ne nous permettra pas de nous perdre parce que nous savons avec qui nous marchons. La notion de perdu suggère qu'ils ne sont littéralement pas détruits. Comprennent qu'il y a des difficultés, ils comprennent que les résolutions amènent des combats, mais ils comprennent et ils savent surtout que lorsqu'ils marchent avec le Christ, c'est littéralement ce qui a transformé une résolution en conviction. Et tu sais le bien fondé de ce que tu vis et pourquoi tu le vis. Concrètement, Paul dit ceci. Il dit, nous sommes souvent touchés à cause de notre foi. Parfois même, on est tombé à genoux. On a été mis à terre. Mais aucune pression ne pourra faire mourir notre résolution parce qu'elle ne repose pas sur des choses d'ici-bas. Elle est fondée sur notre foi en Dieu. Elle est fondée sur celui qui nous donne la confiance, celui qui nous donne la résilience pour affronter toutes les pressions, toutes les détresses, toutes les persécutions et tous les moments d'abattement. Dans tout ce que nous vivons, nous ne perdons pas l'espoir et nous ne serons jamais vaincus, car notre première résolution, c'est que nous demeurons accrochés à Jésus. C'est pourquoi même dans l'épreuve, nous pouvons considérer que nous sommes pressés de toute manière, mais pas détruits. Nous ne sommes pas à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais jamais abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne serons jamais perdus. Parce que nous marchons avec Jésus, et ce Jésus est notre force, la force de notre résolution, et celui qui va libérer et préparer les solutions. La force de la résolution, elle va libérer les solutions. Quand tu sais avec qui tu marches, quand tu sais avec qui tu vis, quand tu sais que même dans la difficulté, il marche avec toi, il ne t'abandonne pas, tu sais assurément que même si tes yeux ne le voient pas, Jésus a déjà préparé la solution. Quelqu'un va entendre ceci alors que l'année démarre, puis peut-être tes yeux sont fixés sur des choses que tu dis, mais comment je vais pouvoir passer, traverser ça, alors que l'année commence à peine. Quelqu'un doit entendre que Jésus a déjà préparé la solution. La force de notre résolution libère les solutions. Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 3, 10 et 11, il dira, pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Tu as suivi ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance dans toutes les persécutions, dans les souffrances, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône ou à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Voici le message d'espoir pour toi ce matin. Voici le message d'espoir alors que tu as peut-être des résolutions que tu veux prendre, que tu dois prendre. Le message d'espoir, c'est que quel que soit ce que tu vas traverser, le Seigneur a déjà préparé les issues. Lorsque l'apôtre Paul a été quand même laissé pour mort, sorti aux extrémités de la ville, après avoir été lapidé, Dieu avait déjà préparé les solutions. Il dit lui-même, il dit, le Seigneur m'a délivré de toutes les persécutions. Timothée a observé la manière dont Paul a vécu sa foi. Timothée a observé la puissance et la force qui résidaient dans les résolutions de l'apôtre Paul. Il a vu sa détermination, son amour. Et il déclare ceci, il dit, tout ce qui m'est arrivé. Et Paul donne des exemples où il a vécu des tragédies, où même il a été comme lapidé, laissé pour mort. Mais il dit, le Seigneur m'a délivré de toutes les persécutions et de toutes les épreuves. Paul souligne que même à travers la sévérité des persécutions, même à travers la force de l'opposition qu'il a endurée pour sa foi, le Seigneur l'a délivré de toutes les épreuves. L'apôtre Paul avait littéralement, c'est un homme de résolution. Et malgré tout ce qu'il a vécu, il aurait pu abandonner tellement de fois. Lorsque l'on lit le texte de départ, il a tout subi. Il a été en péril partout, avec tout le monde. Il a subi la famine, il a subi le froid, la nudité, il a subi les coups, la violence. Il a tout subi. Il aurait pu abandonner tellement de fois. Mais c'était un homme résolu. Il y avait une confiance infaillible dans le cœur de Paul et sa confiance en la protection divine et la délivrance accordée par Dieu dans les moments difficiles était omniprésente. L'apôtre Paul savait littéralement que même dans une prison, alors qu'il est emprisonné avec Silas, le texte nous dit qu'ils sont emprisonnés. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent. Ils chantent. Combien d'entre nous, on aurait commencé déjà à chercher des solutions ? À gratter le sol pour voir si on ne pouvait pas creuser un tunnel ou je ne sais quoi. Mais eux chantent. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la résolution qu'ils avaient prise le conduirait toujours dans des solutions qui ne viennent pas de cette terre, mais des solutions qui viennent du ciel. Et alors que l'apôtre Paul et Silas, ils sont là, ils chantent la louange dans la prison. Au milieu de la prison, il y a la terre se met à trembler, les portes s'ouvrent. L'apôtre Paul avait confiance puissante dans la capacité de Dieu de préparer les solutions au cœur de ces oppositions. On va dire à quelqu'un, discerner les solutions qui se cachent dans chaque opposition, c'est prendre la résolution de transformer les obstacles en opportunités. Et c'est ce que Paul va vivre alors qu'il est en train de chanter dans cette prison avec Silas, que les portes s'ouvrent et que tout le monde est comme sur le point d'être libéré et même le geôlier veut se donner la mort. Mais Paul savait que même dans la prison, il était là où Dieu l'avait voulu. Paul savait que même dans sa prison, il savait que ça faisait partie du cheminement de sa résolution. J'irai là où Dieu veut que j'aille. Je serai là où Dieu veut que je sois. Et quoi que mes yeux voient, je verrai à travers la difficulté la solution que Dieu a déjà préparée. Je ne la connais pas, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Discerner la solution qui se cache dans chaque opposition, c'est prendre la résolution de transformer les obstacles en opportunités. Paul voyait les difficultés, mais au-delà de cela, il savait que Jésus avait des solutions préparées dans chaque opposition qui se présentait. Et peut-être ce matin, tu es là, puis tu n'as pas encore pris tes résolutions. Peut-être tu as déjà pris des résolutions. Peut-être tu sens que ça presse déjà sur tes résolutions. Peut-être que tu as des résolutions qui tu dois prendre, qui vont avoir un impact sur ta vie, sur ta famille, sur ta carrière pro, sur ta foi, sur ton service, sur ton entourage, ton environnement. Et peut-être tu penses même que des résolutions qui ne sont pas possibles, qui sont pas, c'est pas envisageable. Peut-être tu vois, lorsque tu penses résolution, tu ne vois que l'opposition. Et tu te résous pour finalement rester dans ta condition parce que tu ne veux pas vivre la pression. La clé de la résilience de l'apôtre Paul, c'est qu'il a accepté de vivre la transformation de ce qu'il était et de ce qu'il pensait. Le pire ennemi de nos résolutions, c'est notre tête. Parce que notre esprit nous dit, c'est pas possible, c'est pas capable. Il y a des fois des gens qui ont des résolutions à prendre pour marcher sur le chemin du pardon. Des fois, des gens qui ont des résolutions à prendre pour marcher sur le chemin de la libération, de la restauration. Mais notre tête nous dit, c'est pas possible. T'es pas capable ou c'est pas pour toi. La clé de la résilience de Paul, il a accepté de vivre la transformation de ce qu'il était et de ce qu'il pensait. Sa décision de vivre la transformation a transformé ses résolutions. Il l'a conduit dans une puissante relation qui éloignait la pression et appelait les solutions, même dans les pires tragédies de sa vie. Ma conclusion pour vous ce matin, pendant que j'invite les musiciens, c'est que Dieu nous appelle tous dans des résolutions qui vont impacter nos vies, impacter nos familles, nos relations, nos actions. Mais une résolution sans décision ne produira jamais d'action. La résolution, elle prend naissance dans une décision. Mais elle s'épanouit et elle se renforce à travers la persévérance qui va transcender l'opposition. À travers la persévérance de « je n'abandonnerai pas cette décision ». J'ai pris cette décision avec le Christ et je vais marcher avec lui. Il est avec moi, il marche avec moi, il est à mes côtés. Paul dit « j'ai persécuté, j'ai opprimé, j'ai tué ». J'étais aimé par les autorités et détesté par les chrétiens. Et alors que j'ai pris la décision de vivre cette transformation qui a transformé ma résolution, je savais pertinemment que ce serait compliqué. Mais il a choisi et il s'est résolu. Et notre texte de base, le texte que nous avons lu déclare, voici ce que j'ai subi pour la cause de l'Évangile. Voici les pressions, voici l'opposition, voici la violence que j'ai subie, voici les coups, voici les naufrages, voici la famine. Mais dans tout cela, ma résolution reste intacte. L'opposition n'aura pas raison de ma résolution parce que j'ai transformé cette résolution en une conviction. Je sais pourquoi je le fais, je sais pour qui je le fais. L'apôtre Paul dit « J'ai tout vécu, la violence, les coups, les naufrages, la famine, la nudité, le froid, la prison. Mais aujourd'hui encore, je suis là pour témoigner que ma résolution est puissante, que ma résolution est vivante, que ma résolution porte un nom, que ma résolution s'appelle Jésus. Ma résolution porte le nom au-dessus de tout nom et ma résolution m'a gracié du passé, elle m'a libéré du péché. Ma résolution vaut littéralement la peine de persévérer parce que ma récompense n'est plus sur cette terre, ma récompense est dans le ciel. Nous avons des résolutions à prendre. Mais même en étant résolu, tu ne seras pas dépourvu de combats, de pressions, tu dois le savoir, c'est une réalité. Ils vont venir pour te limiter, pour te freiner, pour te stopper, parce que les décisions que tu vas prendre sont des saines décisions. Et si la résolution n'est pas dépourvue d'opposition, la décision de ces résolutions n'est jamais dépourvue de puissance, de force, de persévérance, si nous regardons à celui qui produit la vie plutôt que celui qui veut faire mourir ta résolution. La résolution est la première note, mais c'est la persévérance qui écrit la partition et compose la symphonie du succès de ta résolution. Peut-être tu es là ce matin, puis tu as pris des résolutions et au cours des années déjà, toutes les résolutions que tu as prises ont eu pour seule finalité les déceptions. Peut-être ça fait des années que tu prends des résolutions puis tu n'es pas capable de les tenir. Et il y a quand même une culpabilité à cause de cela. Le nombre de fois que j'ai pris des résolutions que je n'ai pas tenues. Et quelquefois, c'est certaines résolutions que nous prenons, quand on ne les tient pas, c'est culpabilisant. Peut-être même que pour certains, la seule résolution que tu peux prendre, comme je disais tout à l'heure, c'est « je ne prendrai plus de résolution ». Je ne vais rien gagner, mais je ne serai pas déçu. Je vais te dire ce matin que les choses peuvent changer. Tu peux décider ce matin d'être victorieux dans tes résolutions, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur complexité. Peut-être que tu dois prendre des résolutions de changer, de pardonner, de revenir vers quelqu'un ou peut-être même de revenir vers Dieu. Peut-être que tu as des choses à réparer. Peut-être que c'est des résolutions que ça va te coûter quelque chose. Et peut-être que ta résolution, finalement, elle te met devant les yeux le prix de ce que ça va coûter. Je vais te dire ce matin et t'inviter, ne cède pas à la tentation de laisser tomber ta résolution parce qu'elle peut transformer ta destinée. Ne cède pas à la tentation de laisser tomber cette résolution parce qu'elle peut transformer ta destinée. Plus la pression sur ta résolution est intense, plus la victoire que tu vas obtenir va être écrasante. Ne passe pas à côté de ta victoire à cause de la pression sur ta résolution. J'aimerais conclure en te disant que Jésus a pris deux résolutions pour toi, pour moi et pour l'humanité. La première résolution qu'il a prise, c'est « J'irai et je mourrai sur la croix et je ressusciterai afin que leurs péchés soient pardonnés et afin qu'ils soient trouvés dignes de pouvoir se tenir dans la présence du Père. » Et la deuxième résolution qu'il a prise, c'est qu'avant de partir, il a dit « J'ai prévu pour que vous ne soyez plus jamais seuls. J'ai prévu de vous envoyer le Consolateur. J'ai prévu de vous envoyer le partenaire de jeu parfait. J'ai prévu de vous envoyer le Saint-Esprit parce que je sais que tout seul, c'est difficile. Mais avec lui, tout va devenir possible. » L'Esprit Saint, c'est le Consolateur promis par Jésus pour être aux côtés de chacun d'entre nous. Pendant qu'on incline nos têtes ce matin, juste pour se tenir en prière, j'aimerais te dire ce matin que tu peux décider de bâtir tes résolutions sur tes propres forces et de voir ces résolutions tomber à terre très rapidement. Ou tu peux décider ce matin, voici, je prendrai mes résolutions avec le Saint-Esprit parce qu'il est le meilleur partenaire pour avancer. Si tu as une résolution ce matin que tu dois prendre avant toutes les résolutions, c'est de ne plus marcher seul dans tes résolutions. C'est d'inviter le Saint-Esprit à tes côtés parce qu'il est ton compagnon. C'est la résolution de Jésus que tu ne sois plus jamais seul et que tu puisses affronter les difficultés, que tu puisses prendre les bonnes décisions avec le Saint-Esprit à tes côtés. Est-ce que ce matin, tu veux, sans peur, sans décider de venir ou de revenir dans un vrai, un véritable partenariat avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux sceller un engagement qui peut changer littéralement ta destinée, transformer tes résolutions en convictions et te faire passer de la déception à la victoire? Oui, je marcherai maintenant dans la victoire. C'est pour toi ce matin si tu veux déclarer ça, alors qu'on est en début d'année 2024 et que c'est le moment pour nous de se décider, de prendre une résolution. Seigneur, voici ce que j'entreprends pour 2024. Voici les défis que je n'ai pas réussi à accomplir en 2023. Voici peut-être les réconciliations que je n'ai pas été provoquées. Voici peut-être les transformations dans ma vie que je n'ai pas acceptées. Seigneur, ce matin en 2024, alors que nous entendons que tu as un plan pour nous dans les résolutions qui est un plan de bénédiction, je veux ce matin prendre la décision que ce que je n'ai pas réussi en 2023, je m'engage à le faire avec le Saint-Esprit en 2024. Je sais que ce n'est pas possible pour moi tout seul, mais c'est possible avec toi. J'aimerais juste t'inviter ce matin, pendant que nos têtes sont baissées et que nos yeux sont fermés, juste de lever ta main avant qu'on puisse chanter qu'il est celui qui fait des miracles. Il est celui qui trace un chemin. Je voudrais prier pour toi ce matin, alors qu'on va démarrer cette nouvelle année, et juste te donner l'opportunité de dire, voici, cette année, je m'engage, je prends la résolution de marcher avec le Saint-Esprit, le meilleur compagnon, et je m'engage à aller au bout de mes résolutions. Pendant que les mains se lèvent, j'aimerais qu'on puisse simplement commencer à chanter ce chant qui dit, tu traces un chemin. Nous croyons, Seigneur, que ce matin, dans le chemin de l'adversité, dans le chemin de l'opposition, Seigneur, tu traces le chemin de nos résolutions. Tu traces le chemin qui nous permet de marcher sur l'opposition. Tu traces le chemin qui nous permet de tenir ferme dans nos résolutions. Tu traces le chemin qui nous amène à la conviction, Seigneur, que tu es notre victoire. Et Seigneur, alors qu'on est là ce matin, dans ce premier dimanche, et que les mains se lèvent, Seigneur, je veux prier dans le nom de Jésus-Christ pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes bien-aimés qui ont levé leurs mains, qui ont dit, Seigneur, 2024 sera pas comme 2023. Je ne reculerai pas sur le chemin de mes résolutions, mais j'avancerai tel l'apôtre Paul. Je marcherai sur l'opposition, je marcherai sur les confrontations et je me tiendrai avec toi, à tes côtés. Et je proclame cette année que 2024 va être pour mes bien-aimés une année de puissance, de restauration, de guérison, de libération, parce que tu es celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, même si l'ennemi nous montre, met devant nos yeux toutes les difficultés, toutes les pressions et l'opposition, Seigneur, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ et nous ouvrons un chemin. Seigneur, comme tu l'as fait pour les Hébreux, alors que ils sortaient de l'Égypte, Seigneur, qu'ils étaient confrontés, ils étaient face à la mort des deux côtés. D'un côté la mer, de l'autre côté les Égyptiens. Mais tu as tracé un chemin qui leur a permis de passer de la mort à la vie. C'est ce que je proclame ce matin dans le nom de Jésus-Christ sur la vie de chacun dans ce lieu. Que tu traces un chemin, parce que tu es celui qui opère des miracles, tu es celui qui fait des prodiges, tu es celui qui transforme toutes les situations. Nous glorifions Jésus ce matin dans ce lieu.